Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un passage de notre Bible et je vous invite à méditer un texte dans l'évangile de Luc qui met en évidence une des grâces les plus précieuses, les plus grandes, c'est le pardon. Voilà. Le pardon de Dieu, le pardon accordé dans ces circonstances à une femme qui a eu une vie tumultueuse, mais qui s'approche de Jésus, malgré, en effet, tout ce qu'elle a pu vivre dans son histoire, dans son passé, elle s'approche quand même de Jésus. Et nous allons lire ce récit donc dans Luc chapitre 7, verset 36. Voilà, c'est un rapport qui nous est donné par Luc seulement, et il est intéressant par le fait même que nous apprenons des choses et cela peut nous servir aussi à nous-mêmes. Alors voilà, je fais la lecture. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme, pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table. Dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui, et de quelle espèce, et la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà pour eux. Le récit, vous le connaissez, vous l'avez certainement lu dans cet évangile de Luc, mais il est important parce que il y a là une rencontre certainement improbable dans cette histoire, rencontre de Jésus avec une prostituée, avec une femme de mauvaise vie, et la scène se passe, si ça peut être un comble, dans la maison d'un homme qui s'appelle Simon. Il est pharisien en raison de ses convictions religieuses et toute la scène va se passer chez lui. Alors, et ça s'est fait sur une invitation, parce que c'est pas Jésus qui est allé dans la maison de Simon, c'est parce que le pharisien, tout simplement, a invité Jésus. Et c'est à la faveur de cette invitation, puisqu'il nous est dit un pharisien pria Jésus de manger tout simplement avec lui. Et ça, c'était une chose inattendue. Mais de cette chose inattendue, nous voyons qu'il va se passer quelque chose en tous les cas un événement qui va servir à tous et qui peut nous servir 2000 ans après pour chacun d'entre nous, à savoir l'état dans lequel nous pouvons être, si nous sommes dans les conditions qui permettent à Dieu de nous pardonner, si nous croyons que si nous demandons à Dieu de nous pardonner, qu'il va le faire, et que, après avoir cette assurance et cette certitude que nous sommes pardonnés, est-ce que nous-mêmes nous allons nous pardonner? Est-ce que nous allons pouvoir, eh bien, vivre dans la liberté de ce pardon? Vous savez que le problème du pardon est quelque chose d'essentiel dans la vie des hommes. Le pardon, c'est en quelque sorte comme une prison quand on ne l'accorde pas. Et il y a des gens qui, quelquefois, ont beaucoup souffert, qui ont été profondément malheureux, maltraités, et qui se refusent absolument de pouvoir pardonner à ceux qui les ont offensés. Alors, voilà, même si on vient leur demander pardon, ils ne veulent pas pardonner, parce que la somme de souffrance est tellement grande qu'ils se disent « je ne peux pas pardonner et je ne pardonnerai jamais ». Alors, celui qui propose le pardon, ben, il peut repartir parce que finalement, lui, il est libre, il a demandé pardon, même si véritablement on ne lui a pas dit. On lui a pas dit qu'on le pardonnait. Mais celui qui refuse de pardonner, alors à ce moment-là, ou celui qui juge une situation et qui ne va pas aller plus loin, c'est comme s'il se renfermait dans une prison et toute sa vie, il va être captif, par défaut de pardonner. Alors c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, toute l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Évangile est fondée sur le pardon. Autrement, on ne serait pas là ce soir. Pour la bonne raison que nous avons cru au pardon de Dieu. Et nous avons là, dans les protagonistes de l'histoire, un homme qui lui, eh bien, on va en parler d'ici quelques instants, n'a pas conscience qu'il a besoin de pardon. Et ça, c'est terrible. Il pense que il est suffisant. Il pense qu'il n'a ni tué ni volé et puis que ça suffit comme cela. Que sa religion lui suffit et que ben, c'est très bien. On n'ira pas plus loin. Par contre, nous allons voir que, à côté de cela, il y a une femme qui va rentrer dans sa maison, d'une manière inopinée, et qui, elle, va véritablement tout faire pour obtenir le pardon. Alors, c'est vrai que si on compare les deux personnages, un homme bien, un brave homme, nous pourrions dire, que ce pharisien, qui avait probablement une bonne réputation, qui n'avait peut-être pas fait les 400 coups, comme on dit, et qui va, dans ce qui va se passer devant lui, va se permettre de juger sévèrement. Puis il y a cette malheureuse qui est là, qui après avoir, comment pourrait-on dire, qui après avoir fait la vie, après avoir multiplié les aventures et toutes sortes de choses qui ne se disent pas et qui sont choquantes, elle va éprouver vraiment, par des pleurs, par des gestes, mais des gestes d'amour, ce besoin immense d'être pardonné par Jésus, d'être pardonné par Dieu, d'avoir le pardon de Dieu. Alors, quand on reprend l'histoire, il nous est dit que Jésus, après l'invitation, est entré dans la maison de cet homme et il se mit à table. Voilà, il devait y avoir probablement plusieurs personnes, à la manière dont on pouvait prendre un repas à l'époque, hein, certainement. Et puis, à un moment donné de ce repas, il nous est simplement dit qu'il y a eu une femme. Une femme qui est entrée dans la maison de Simon le pharisien. Il nous est bien précisé avec l'adjectif qu'elle était une femme de mauvaise vie, c'était une courtisane. Si vous aimez mieux en d'autres mots, eh bien c'était tout simplement une prostituée notoire. Et elle se trouvait dans la ville, ce qui montre bien qu'on la connaissait pour sa manière de vivre, sa manière immorale de vivre. Et cette femme a eu l'audace, elle a eu le courage, il nous est simplement dit, d'une manière très brève, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, alors à ce moment-là, elle s'est portée dans cette maison, elle est rentrée dans cette maison, à l'étonnement probablement de tous ceux qui étaient là, parce que c'était certainement pas ce qui se faisait d'ordinaire, une prostituée rentrée dans la maison de ce monsieur, de cet homme de réputation, waouh. C'est pas possible, hein. C'est quelque chose qui, en effet, eh bien, dépasse peut-être notre compréhension. Et cette femme est venue avec un vase d'albâtre plein de parfums. Elle est venue avec un parfum. Avec, cette substance de grande valeur, ce parfum tout simplement, et elle s'est tenue derrière Jésus, au pied de Jésus. Imaginez-vous la scène. Ça a dû certainement choquer plus d'un. Premièrement, de la voir rentrer dans cette maison. Jusqu'à peut-être dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de Simon le pharisien? Et puis après, tous les gens qui étaient à table, je peux vous dire que les conversations ont dû s'arrêter net, hein. Parce que elle avait une façon de s'habiller. On pourrait dire une mise qui la faisait reconnaître comme une prostituée. Comme, malheureusement, on peut le voir encore aujourd'hui. Il n'y avait aucun doute à avoir. C'était pas une femme déguisée, hein. C'était vraiment, tout simplement une prostituée. Et puis voilà que cette femme est venue en tenant ce vase qui représentait probablement un parfum de grand prix. Et première constatation, se tenant au pied de Jésus, elle n'a pas fait la démonstration de ce qu'elle était. Il nous est dit d'une manière très simple, c'est qu'elle pleurait. Voilà. Elle pleurait. C'était pas pour le décor, ce n'était pas, comme on dit, du cinéma, mais c'était véritablement quelque chose qui était sincère, quelque chose de profond à l'intérieur d'elle-même, et à tel point que, dans son chagrin, parce qu'on peut parler véritablement d'un chagrin, alors, il nous est dit que bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, et elle a défait ses cheveux, et les a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, essuyé les larmes qui étaient tombées sur les pieds de Jésus. Quelle histoire! C'est quand même, c'est dans l'évangile, hein. C'est pas une invention, c'est pas quelque chose qui a été monté de toutes pièces, c'est pas un scénario. Alors elle a essuyé avec ses cheveux, et elle a embrassé les pieds de Jésus, et elle a mis du parfum dessus. Ah! Ça c'est quand même une chose véritablement inédite. Surtout dans ce contexte. Surtout avec une telle personne. Jésus se laisse faire. Jésus aurait pu dire, mais dis donc, moi je suis invité dans cette maison, mon hôte, me reçoit, alors on parlera un petit peu plus tard, tu sors dans la rue et puis après on verra les choses ensuite. Non, Jésus la laisse faire, tout simplement. Il y a là dans le cœur et dans la démarche de cette femme une véritable authenticité. Elle ne joue pas la comédie. Une grande sincérité. Et on va en parler d'ici quelques instants. Alors, nous allons mettre en confrontation l'état de souffrance, de chagrin dans laquelle se trouve cette femme, avec ce pharisien et son jugement sur elle. Son jugement. Et ça, c'est quand même assez étonnant parce qu'il nous est dit à un moment donné que le pharisien, qui l'avait invité Jésus, voyant cela, d'abord ne s'est pas exprimé à haute voix d'abord, dans un premier temps. Et il s'est dit en lui-même, en parlant de Jésus, en regardant peut-être Jésus, en haussant les épaules, il pensait en lui-même, si cet homme était prophète, premier doute. Je ne sais pas quelle a été la motivation de Simon le pharisien pour inviter Jésus dans sa maison. Est-ce que peut-être il voulait faire plaisir à Jésus? En lui disant, viens chez moi, je t'offre un repas et on va passer un bon moment. Tu nous diras ce que peut-être tu souhaites nous dire, puisque Jésus parlait. Mais comme le cours des événements a complètement changé, en voyant cette femme, Simon a certainement dû être troublé, qu'elle fasse irruption dans sa propre maison et faire ce qu'elle a fait sur les pieds de Jésus, comme nous l'avons décrit il y a un instant. Mais là, à partir de ce moment-là, il va dire, mais si cet homme était un prophète, si c'était un envoyé de Dieu, si c'est le Messie d'Israël, il devrait quand même savoir qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une prostituée. Voilà la déduction qu'il en fait. Donc, il se dit, cet homme que j'ai invité, qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui parcourt le pays et qui fait des choses, c'est vrai, j'ai entendu, extraordinaires. Si cet homme était un envoyé de Dieu, s'il était prophète, il saurait. Il saurait qui est cette femme qui est à ses pieds il saurait que c'est une prostituée, alors à ce moment-là, il la chasserait. Vous vous rendez compte? C'est la déduction qu'il en tire. Et il se dit, bien, c'est bien mon jour aujourd'hui. Si j'avais su, je l'aurais pas invité chez moi. Hein. Parce que quand je l'invite chez moi, eh bien, il attire toutes sortes de mauvais gens qui doivent être certainement ses semblables. Vous vous rendez compte un petit peu le raisonnement? Il juge. Il juge. Il juge sur les apparences. Et les apparences sont vraies, c'est vrai, sont à la charge de cette femme. Parce que tout le monde connaît dans la ville que c'est une prostituée. Que c'est une femme de mauvaise vie. Une femme qui vit dans l'immoralité. Mais il le regarde uniquement aux apparences. Et ce qu'il oublie, c'est de regarder au cœur, parce que Jésus est en train de faire, et il va le dire d'ici quelques instants, Jésus va bien mettre les choses et dire les choses comme il faut les dire. Tout dépend de la manière dont nous regardons. Si nous regardons à l'extérieur, nous pouvons toujours juger. Et nous aurons de quoi juger. Juger témérairement, juger arbitrairement et juger faussement. Parce que vous savez, vous connaissez le proverbe que l'habit fait pas le moine. Hein? Oui, ça tout le monde sait ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus avait une autre vision sur cette femme. Le fait qu'elle vienne avec un vase de nard de grand prix, un parfum de grand prix. Le fait qu'elle pleure. Le fait qu'elle mouille de ses larmes les pieds de Jésus et qu'elle mette du parfum. Tous ces petits gestes sont là pour dénoter qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose que Simon ne pourra jamais voir, que tous ceux qui sont autour ne pourront jamais discerner, ne pourront jamais comprendre, c'est que cette femme, elle vient avec un cœur qui est brisé. Et il est brisé pourquoi son cœur? C'est qu'elle en a marre. Elle est fatiguée. Elle est épuisée de la vie qu'elle mène. Elle ne veut plus être une prostituée entre les mains d'hommes profiteurs. Entre les mains d'hommes qui vont, pour de l'argent, eh bien, abuser d'elle ou user d'elle, tout simplement. Profiter d'elle. Et elle en est malheureuse. Et à ce moment-là, elle se tourne vers Jésus en pensant que Jésus peut lui apporter quelque chose, peut lui donner quelque chose, peut la libérer, peut l'affranchir. Et plus que cela encore, et elle le sait, c'est pourquoi elle vient, qu'il peut lui pardonner toute cette vie qu'elle a menée jusqu'alors. Ouais. Juger selon les apparences et juger selon la vérité. Juger par rapport à ce qu'il y a au fond des cœurs. Jésus le dit, hein. Dans le sermon sur la montagne, il dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. » Et croyez bien que la vérité, elle ne saute pas aux yeux au premier abord. Parce que tout était contre cette femme. Tout pouvait, sa réputation, ce qu'on disait d'elle, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, la manière dont elle vivait, tout était contre elle. Et il n'y en a qu'un dans cette maison qui pouvait véritablement la justifier dans la démarche qu'elle faisait auprès de Jésus. C'était Jésus lui-même. Tous les autres n'avaient rien vu. Alors Jésus a pris la parole et lui dit « Mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Ah, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Simon va lui dire « Mais parle. » Et il va mettre une toute petite parabole. Vous savez ces petites histoires qu'il y a dans la Bible qui ont une valeur morale et spirituelle pour nous enseigner la vérité ou les vérités qui sont contenues eh bien là dans ce livre. Un créancier avait deux débiteurs. Il y avait un homme qui avait, eh bien là, deux débiteurs qui lui devaient de l'argent. Ça, c'est quelque chose que l'on comprend. L'un devait 500 deniers, c'est-à-dire une fortune, nous pourrions dire, enfin quelque chose de conséquent, et l'autre 50, imaginez-vous, 500 et 50. Vous voyez la disparité, hein. Il y en a un qui devait une fortune et puis l'autre, ben, c'était quand même une petite somme. Alors, comme il n'avait pas de quoi payer, ce créancier, qui était magnanime, qui passait sur les choses, eh bien, leur a remis tous les deux leurs dettes. Il leur a dit, bien, toi, tu me dois 500 deniers, je t'en fais cadeau. L'autre qui devait 50 deniers, je t'en fais cadeau. Ils ont dû se regarder en disant, mais c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Parce que quand on a des dettes, on les paie. Pour nous montrer un petit peu qu'il y a là, quelque part, eh bien, cet esprit de grâce. Ils ne pouvaient pas payer. Ah, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Hein, maintenant, on ne sait pas comment les choses ont été gérées, mais toujours est-il qu'ils ne pouvaient pas. Alors, le créancier, le maître, leur a dit, écoutez, on n'en parle plus. Voilà, c'est fini. Je vous en fais cadeau. Et Jésus va poser cette question qui est la suivante. Lequel l'aimera le plus? Alors tout le monde a compris parce que lui, il a bien répondu, hein, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé dans la réponse, mais il s'est trompé sur lui-même. Et on va le voir d'ici quelques instants. Lequel l'aimera le plus? Alors Simon a répondu ceci. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et c'est logique. Hein? Quand vous devez une somme considérable et qu'on vous dit maintenant c'est cadeau, tu peux partir, tu es affranchi, on n'en parle plus. Ben, vous êtes content hein, parce que vous vous rendez compte, 500. Oui, celui qui avait la plus petite somme était content aussi, mais ça n'avait pas la même valeur naturellement. Hein, dans la durée du temps du paiement, etc., etc. Et Jésus va lui dire, tu as bien jugé. Et là nous avons quelque chose d'intéressant, c'est que notre ami Simon le pharisien, le juge, parce que c'est ça, il juge, va faire la démonstration sur trois points, eh bien, qu'il se trompe sur lui-même. Il juge cette pauvre femme parce qu'il sait que c'est une prostituée, ça se voit, mais il ne se voit pas lui-même. Et c'est tout simplement le retour de cette parole que Jésus nous donnera dans le sermon sur la montagne. Toi qui juges, commence à ôter la poutre qui est dans ton œil, alors à ce moment-là, tu pourras enlever la paille dans l'œil de ton voisin. Vous comprenez? C'est ça. Et vous savez que le monde fonctionne souvent comme ça. Hein. On vit dans un monde aujourd'hui où... Ah, dites donc, hein, c'est... Les jugements, ça vole de tous les côtés, en politique, dans le monde social, dans toutes sortes de choses, et je peux vous dire que personne ne se fait de cadeau. Hein. Ah ouais, hein. C'est comme ça. Et le monde, c'est un petit peu la loi du talion, hein. Je t'ai fait ça, eh bien je te fais ça. Tu m'as fait ça, je te fais ça. C'est la réponse. C'est assez sauvage. Hein. Mais revenons à Simon. Le premier problème qui est chez lui, c'est qu'il n'est pas conscient de ses propres fautes. Et il se permet de juger les fautes des autres. Puisqu'il juge sévèrement cette femme comme étant méprisable. D'ailleurs, il le dit. Il le pense en lui-même. Il dit, mais... Jésus, vous rendez compte, s'il savait de quelle espèce et qui est cette femme, il la chasserait parce que c'est une impure, c'est une femme qui... Voilà. Donc, il se permet de juger. En conséquence de quoi, il a un deuxième problème, c'est qu'il n'éprouve aucun besoin de pardon pour lui-même parce qu'il est aveugle sur sa prétendue propre justice. Il se dit « moi ». Moi, monsieur le pharisien, je vais au temple plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Je donne mon argent dans le tronc. Je fais ceci, je fais cela, etc., etc. Alors pour lui, ça lui suffit. Sa religion le couvre. Il se dit, bien, parce que je fais ceci et cela, j'ai une bonne moralité, j'ai une bonne réputation, je suis un brave homme. Je ne vais pas voir les prostituées. Si c'est ça ce qu'il veut dire. Il se dit, mais dites donc, moi, je suis au-dessus de tout soupçon. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas, à la limite, qu'il est pire que la prostituée. Parce qu'elle, elle prend conscience. Elle va vous demander pardon, et elle pleure et elle en souffre pour avoir une délivrance. C'est que lui, il ne souffre de rien. Il ne souffre pas de son orgueil. Il ne souffre pas de sa suffisance. Il ne souffre pas de... ce qui peut se passer dans sa tête quelquefois, mais que personne ne saura. Il n'en souffre pas. Et il vit de cette manière, et il se dit, mais moi j'ai pas besoin de pardon, puisque je n'ai rien fait. En d'autres termes, j'ai pas besoin que Dieu me pardonne, puisque j'ai jamais fait de mal. Est-ce que c'est vraiment vrai? Eh bien écoutez, le fait de juger Jésus, et de mépriser cette femme, eh bien, c'est un péché dont il n'est même pas conscient. On lui dirait, tu as fait quelque chose de mal, il dirait, mais certainement pas. Regardez, j'ai invité Jésus à ma table. Bon, C'est vrai qu'il y a cette femme qui est rentrée, je ne l'ai pas invitée, mais je ne l'ai pas chassée non plus. Voilà. Et ça nous amène à un troisième point. C'est qu'il donne du bout des lèvres et des doigts. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu la vois cette femme? Vois-tu cette femme? Eh bien moi je veux te montrer qu'elle en a fait beaucoup plus que toi. Et quelque part, eh bien, il se passe quelque chose dans son cœur qui ne se passe pas dans le tien. Jésus va lui dire, je suis entré dans ta maison, Simon, hein, et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Ce qui était un minimum en Orient, dans l'Antiquité, quand on avait un invité. On lui présentait finalement eh bien, une bassine avec de l'eau pour qu'il puisse se laver les mains et les pieds, parce que ça supposait qu'un voyageur marchait dans la poussière et qu'il avait besoin de se rafraîchir, il avait besoin de se laver. Mais elle, elle a mouillé. Elle les a mouillés, mes pieds, de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Donc elle a fait plus que toi. Toi, tu n'as rien fait. Tu ne m'as point donné de baiser, mais depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Alors c'est quand même un signe d'humiliation, parce qu'embrasser une main ou embrasser un bisou sur la joue, c'est une chose. Ça, c'est très commun chez nous. Mais embrasser les pieds de quelqu'un, faut déjà le faire. Hein. C'est quand même un signe d'humilité, hein, et de modestie. Et elle l'a fait. Tout simplement. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, parce qu'en Orient, c'était ça. À cause des rigueurs du soleil et du climat, eh bien, un voyageur qui rentrait et à qui on offrait l'hospitalité, alors on lui offrait naturellement de l'eau, mais on lui mettait de l'huile aussi pour le rafraîchir. C'était un, quelque sorte, eh bien là, un apaisant. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous voyons le juge et nous voyons la malheureuse femme qui est jugée, et d'une manière tellement, tellement brutale et sans miséricorde, sans lui faire grâce. Parce que quand elle est rentrée dans cette maison, elle n'est pas venue voir Simon, elle est venue voir Jésus. Et si elle est venue voir Jésus, c'est qu'elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous? Toute la question est là pour nous qui écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous? Quelle est la situation dans laquelle je pourrais avoir besoin de Dieu? Est-ce que quelque part, il s'agit tout simplement d'une guérison, d'une délivrance, d'un apaisement, d'un secours? Est-ce que peut-être ma conscience et mon cœur a besoin d'être apaisé, tranquillisé? Est-ce que j'ai besoin d'être sécurisé? Est-ce que j'ai besoin d'avoir, eh bien là, quelque chose qui calme ma peur, ma crainte, mes angoisses, mon anxiété? Est-ce que devant toutes ces choses humaines et toutes ces situations de la vie, est-ce que Jésus peut répondre à cela? Ou plus encore, sur le plan moral, dans ma vie, à moins que je me considère comme un saint, S-A-I-N-T, que je me considère comme un ange, ce qui serait quand même assez étonnant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout, sur la terre, et que je me dise, eh bien, comme Simon, moi j'ai pas besoin de Dieu, qu'est-ce que je ferais de Dieu dans ma vie, parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, etc., etc. Et attention, quand on fait cette énumération, c'est là où peut-être le bilan va tomber. Parce que quand on y regarde de plus près, on sait très bien regarder les fautes des autres. On sait très bien être parfois très sévère avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on est indulgent avec nous-mêmes? On se dit, mais comme ce pharisien qui rentre dans le temple, que Jésus nous raconte l'histoire toujours dans l'évangile de Luc, et qui nous dit ce pharisien qui prie pas, parce qu'il ne prie pas, finalement il se parle à lui-même. Et il dit, Seigneur, tu sais, hein, des hommes comme moi, il n'y en a pas beaucoup sur la terre, hein, tu devrais être content hein, quand même. Tu te rends compte, moi je donne mon argent au temple, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela, je ne suis même pas. Tiens, t'as remarqué derrière, Seigneur, t'as vu le pauvre gars qui est en train de se frapper la poitrine, là? C'est la même histoire, hein. Tu vois le pauvre gars, là, il a raté sa vie, hein. C'est vraiment un pauvre type, hein. Vous vous rendez compte? Ce publicain. Ben, je suis pas comme lui, quand même, hein. Moi, tu dois être fier de moi, parce que, dis donc, hein, je suis clean, hein. Et ben, c'est comme ça, souvent. Vous comprenez? Impitoyable, arbitraire, voire parfois même méchant. Et c'est ce que Jésus est en train de vouloir nous signifier à travers cette histoire, et qui nous montre que nous avons vraiment besoin de Dieu, à commencer peut-être par notre vie morale. Parce que qui peut dire qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire qu'il n'a jamais volé? Qui peut dire qu'il n'a pas jamais eu de mauvaise pensée? Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de la haine dans son cœur quand on lui a fait du mal? Ou un sentiment de vengeance ou de revanche? Qui peut dire que il n'a jamais été jaloux? Qui n'a pas eu quelquefois l'envie de prendre ce qui ne lui appartenait pas, mais appartenait au voisin? Alors, qui peut le dire? Eh bien, justement, moi, je voudrais dire tout simplement que Jésus est venu particulièrement pour les voleurs. Hein, oui. Il est venu pour les menteurs. Il est venu pour les gens haineux. Il est venu pour ceux qui ont fait le mal, pour ceux qui sont méchants, pour ceux qui ont fait ceci et cela et cela. Jésus le dira. Il dira, mais les malades, ils ont besoin de médecins. Hein. C'est parce qu'ils sont malades. Autrement, quand on n'est pas malade, on ne va pas chez le médecin. Et quand on se sent juste, on n'a pas besoin de Dieu, puisque de toute façon, Dieu est superflu. Il est accessoire. Alors que véritablement, quand on est comme cette femme, ou quand on est comme ce pauvre publicain qui est dans le fond du temple de Jérusalem et qui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis vraiment un pauvre garçon, j'ai raté ma vie, mais pardonne-moi Seigneur. » Alors moi je peux vous dire que Dieu, à ce moment-là, il est prêt à venir auprès de nous et il est prêt à nous donner le pardon dont nous avons besoin. Et parlons justement de ce pardon. Ce pardon, eh bien, c'est tout simplement cette phrase qui nous est laissée. C'est pourquoi Jésus dira, « Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Vous vous souvenez de l'histoire de la parabole qui était donnée? Alors Simon, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, celui qui sera le plus reconnaissant, celui qui aimera le plus, c'est celui qui a... À qui on a remis la dette de 500 deniers ou de 50 deniers? La question était là. Écoutez bien l'explication. C'est pourquoi, dit Jésus, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Eh oui. Elle a beaucoup aimé. Ah oui, elle a aimé des hommes. C'était une prostituée. Enfin, je ne sais pas si vraiment on peut dire amour. Hein. On peut parler d'amour dans ce genre de commerce. Mais en tous les cas, là, dans le cas... Elle a beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'elle a donné, en venant vers Jésus, et en reconnaissant en Jésus celui qui pouvait changer sa vie, lui pardonner, lui enlever tout le poids de culpabilité d'une vie complètement dépravée, eh bien elle a donné, avec les moyens dont elle disposait, elle n'avait pas grand-chose, elle avait du parfum, elle l'a donné. Elle avait des cheveux, elle les a donnés aussi, en les agitant, naturellement, et elle a donné surtout ses larmes. Vous savez, les larmes, elles ne sortent pas seulement des yeux, hein. Les larmes, à moins que ce soit des larmes de crocodile. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Parce que je pense que les crocodiles, quand ils font du, un petit peu d'immersion et tout ça, c'est qu'après ça pleure, tout simplement. Ouais, larmes de crocodile, mais c'est parce que véritablement les vraies larmes, elles sortent du fond du cœur, vous comprenez? Ça change tout, ça, hein. Alors, elle a tout donné. Et elle a fait la preuve de sa foi, et de son amour sincère en celui, entendez, Jésus, dont elle savait qu'il ne la condamnerait pas, qu'il ne la jugerait pas, mais pourrait tout simplement pardonner ses péchés et la sauver de sa vie misérable. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu? Parce que vous savez, les hommes sont pas prêts à faire tout ça, hein. Tu as fait des fautes, tu vas les payer. Voilà. Souvent, il n'y a pas de seconde chance avec les hommes. Hein. Ouais. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Mais elle le savait. C'est pourquoi elle a osé venir dans la maison de Simon. C'était un risque pour elle. Elle aurait pu se faire jeter avec des pierres. On appelle ça la lapidation. Elle a quand même réussi à rentrer. Et puis, elle a réussi aussi à à verser le trop-plein de son chagrin, de sa honte. Elle se sentait sale. Et elle pleurait, parce que vous savez, quelquefois, eh bien, les pleurs, ça lave. Et c'était sincère. Et à l'inverse, Simon, le pharisien, qui était un homme au-dessus de tout soupçon, le pensait-il pour lui-même, eh bien, se réserve et n'offre à Jésus que le minimum, tout simplement. Tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela, etc., etc. Mais elle m'a tout donné. Et elle m'a tout dit aussi, en quelque sorte. Et Jésus va le discerner. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Quand il y a une absence de cœur, il y a une absence d'amour. Parce que l'amour, c'est le cœur. Et le cœur, c'est l'amour. On va pas faire un discours, ni même un sermon sur la question. Nous voyons que Simon, en tous les cas, va donner si peu, alors que elle va tout donner pour être pardonnée. Le problème de cette femme, c'est qu'elle cherche le soulagement. Elle cherche à mettre sa conscience, à libérer sa conscience. Vous savez, c'est un petit peu comme le psaume 32, le psaume de David. Vous connaissez le psaume 32 ? Il dit « Mais tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vie était comme la sécheresse de l'été et je gémissais toute la journée. » Et à un moment donné, David, il se reprend, le roi David se reprend, il dit ceci, « Eh bien, je confesserai mes péchés, je dirai mes fautes. » Et c'est comme ça que David a pu remonter à la surface, parce qu'il était en train de couler. Lui aussi avait fait des choses terribles. Il avait fait des choses profondément mauvaises et injustes, et il ne pouvait plus rester avec ça au fond de son cœur. Il savait qu'il avait tué un homme, qu'il avait volé la femme à un mari, qu'il avait menti pendant je ne sais pas combien de temps, et à un moment donné, ça a été un tourment pour lui, il ne pouvait plus le supporter. Et moi je dis, quand on n'arrive plus à le supporter, c'est bon signe, parce qu'on est encore vivant, parce qu'il y a encore une conscience en nous, parce qu'on souffre peut-être du mal que nous avons fait, et souffrir du mal, c'est aller vers une libération. Quand on n'en souffre pas, eh bien c'est très grave. C'est qu'on n'est pas du tout conscient et c'est qu'on est mort, en quelque sorte. Et nous pouvons dire que le message qui nous est donné à travers Luc sur l'histoire de Jésus, de cette femme et de Simon le pharisien, c'est tout simplement l'illustration, l'exemple majeur ou l'exemple essentiel de ce que la Bible appellera la justification. Ça, c'est un mot difficile. La justification, qu'est-ce que c'est? C'est toute l'épître aux Romains, par exemple, que Paul a écrit. « Je suis justifié, écoutez bien, non pas parce que je le mérite, mais parce que quelqu'un a payé à ma place. » Ouais, ben c'est l'histoire des créanciers, là, et des débiteurs. Ils ne pouvaient pas payer. Eh bien, on leur a dit, maintenant, c'est fini, on n'en parle plus. « Je vous fais grâce de tout cela. » Eh bien, la justification, « Je suis justifié, non pas parce que j'ai fait quelque chose pour être juste, parce que je suis injuste, mais que quelqu'un a payé à ma place. » Et c'est l'histoire finalement, eh bien, ben c'est l'histoire de Pâques. Pâques, qu'est-ce que c'est? C'est Christ qui monte à la croix, qui meurt à la place de tous les hommes. Et tous ceux qui veulent véritablement croire que quelqu'un a payé à leur place, si nous le croyons, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. C'est pas plus difficile que ça. C'est pas d'être religieux, c'est pas d'aller à la messe, c'est pas de faire ceci et cela, ça ne sert à rien devant Dieu tout cela. C'est tout simplement un acte de foi qui fait que, parce que je crois que Jésus est mon sauveur, qu'il est le Seigneur maintenant de ma vie, eh bien je suis sauvé. C'est pas plus difficile que cela, c'est simple même, c'est la justification. Je termine. La leçon de cette histoire qui nous est donnée, c'est que la cause du pardon, ou la cause qui a fait que cette femme était pardonnée, c'était sa foi. C'est parce qu'elle a cru. Si elle n'avait pas cru, elle ne serait pas rentrée dans la maison de Simon le pharisien pour venir aux pieds de Jésus. C'est qu'elle a cru. Et la cause de ce pourquoi nous sommes pardonnés, si nous demandons pardon à Dieu, c'est tout simplement parce que nous croyons en lui. C'est pas parce que nous allons faire des bonnes actions pour compenser les mauvaises, ou que nous allons, eh bien là, faire toutes sortes de choses. Non, c'est parce que je crois. En somme, elle est pardonnée parce qu'elle croit, uniquement sur la base de la foi. Et puis, comme il est question, elle a beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'amour qu'elle porte à Jésus est le fruit du pardon qu'elle reçoit. Puisqu'elle sait qu'elle est pardonnée, et que si tout le monde la condamne dans cette maison et dans toute la ville, une chose qui est certaine, c'est qu'elle sait que Jésus la pardonne. Et le fruit, eh bien tout simplement, c'est l'amour. Quand on a reçu des choses, des grandes choses, quand on a reçu des choses inimaginables, impensables, incroyables, alors que nous pensions que nous étions anéantis et perdus, alors à ce moment-là, on peut aimer. Parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau et de plus grand don que d'être pardonné et d'être sauvé. Alors on aime naturellement. Être chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est pas appartenir à une dénomination religieuse. C'est pas venir à la messe ou au culte, ceci et cela, c'est pas ça. Être chrétien, c'est aimer Jésus. Et c'est de savoir qu'il nous a aimés en premier qu'en retour parce qu'il a fait tellement de choses pour nous. Et entre autres choses, c'est son pardon. Autrement, nous serions encore dans notre misère. Nous serions encore sans espérance. Nous serions encore dans l'incertitude. Nous serions encore dans l'angoisse de la mort. Mais c'est que nous le sommes plus aujourd'hui. Même si la mort frappe tous les hommes et même les chrétiens, nous savons où nous allons. Et ça, c'est une assurance et une certitude. Parce que nous savons que l'amour de Dieu est plus grand et plus fort que tout le reste. Et puis la femme aime beaucoup, parce qu'à la différence de Simon le pharisien, qui ignore son état de pécheur, elle sait qu'elle a beaucoup péché. Imaginez-vous, l'immoralité, toutes ces aventures, tous ces hommes qui sont passés dans sa maison, tout ce qu'elle a pu faire depuis toujours, pour elle, c'est une monstruosité, c'est terrible. D'ailleurs, à propos, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il nous est pas dit comment cette femme est devenue prostituée. Vous savez, quelquefois, il faudrait peut-être y regarder. Quand on pense aux délinquants, quand on pense à des filles qui sont sur le trottoir, mais quelle éducation elles ont reçue? Est-ce qu'elles n'ont pas peut-être déjà, alors qu'elles étaient enfants ou qu'elles étaient peut-être, je ne sais pas, été violentées ou autre chose? Leur vie a été brisée, a été cassée. Quelquefois, on dit oui. Ah, voilà. Regardez un peu de quel genre, de quelle espèce est cet homme ou cette femme ou ce garçon ou cette fille. Mais si nous connaissions un peu les antécédents, qu'est-ce qui les a amenés ici? Eh bien, peut-être on aurait honte de juger. Parce que pour certains, je peux vous dire, c'est terrible. Hein, vous savez, on a regardé quelquefois des reportages là, de toutes les filles qui viennent d'Ukraine, des pays de l'Est, etc., etc. Il n'y a pas de travail dans ces pays, hein. Mais il y a des proxénètes, comprenez, qui font miroiter aux filles qu'elles trouveront du travail en Occident, c'est-à-dire chez nous, qu'elles seront là, bien à travailler dans les bureaux ou autre chose, hein. Puis quand elles arrivent là, on leur prend leur passeport et on leur dit maintenant sur le trottoir. Et elles n'ont pas le choix. Et elles deviennent des prostituées. Mais c'est pas elles qui l'ont choisi. C'est une tromperie. Elles ont été odieusement trompées. C'est terrible, hein. Alors faisons attention quand on juge. Parce que quelquefois, si on connaissait les antécédents, pourquoi cet homme est un ivrogne? Pourquoi il y a ceci et cela? Pourquoi cet homme est un bagarreur et qu'il cogne sur tout le monde? Mais peut-être quand il était petit enfant, eh bien, on l'a battu déjà dès son plus jeune âge, et tout ce qu'il a intégré, eh bien, c'est la violence. Et quand il est devenu adulte, eh bien, il est aussi violent. Attention. C'est quelque chose. Elle sait qu'elle a beaucoup péché parce qu'elle a beaucoup à se faire pardonner. Et quand on a beaucoup à se faire pardonner, alors à ce moment-là, eh bien, on peut aimer. Ouais. Et surtout, quand on a beaucoup à se faire pardonner, on ouvre notre bouche et on confesse nos péchés. Mais pas à n'importe qui. C'est pas un confessionnal dans le fond d'une église toute noire et toute sombre, hein. Non. C'est entre moi et Dieu. Dans ma chambre. Et là, je peux dire, Seigneur, tu vois, regarde, je suis malheureux. J'ai fait des choses répréhensibles. J'en suis malheureux. Je me sens mauvais, je me sens sale, je me sens perdu, Seigneur. Alors je te demande pardon. Eh bien moi je crois que si vous faites ça, quand on fait ça, eh bien le Seigneur entend et on sera certainement plus sûrement pardonné que si on passait par les hommes. Hein. C'est ce qu'elle a fait, en tous les cas elle est venue vers Jésus. Je termine. Tes péchés sont pardonnés, dit Jésus à la femme. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Ben oui, évidemment. Et Jésus dit à la femme, sans répondre à toutes les objections et toutes les critiques des autres, il lui dira, ta foi t'a sauvée, maintenant va en paix. Partir en paix. Partir dans cette joie d'être pardonné. Partir sans sentir le poids qui nous écrase, qui nous broie, qui est en train de nous écraser sur nos épaules. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées dans la personne de Christ. Vous savez ce qui est le plus important? Le plus important, c'est d'être une nouvelle créature qui a été pardonnée par Jésus-Christ. L'apôtre termine, enfin, on parle dans son épître et moi je termine avec ce qu'il dit. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous vous rendez compte? C'est l'inverse de la mentalité, de la moralité des hommes. La moralité des hommes, c'est tu es fichu, tu es perdu, parce que t'en as fait tellement, t'es irrécupérable. Alors maintenant, à la porte, on ne veut plus te voir. Alors que pour Dieu, c'est exactement le contraire. Et quand vous regardez finalement comment ça s'est passé dans l'Évangile, c'était pas les gens qui allaient au temple ou dans les synagogues qui se sont approchés le plus de Jésus. Si, ils se sont approchés de lui pour le critiquer et pour le crucifier. Mais les gens qui sont venus en foule, c'était des pauvres gens, des gens qui étaient tourmentés dans leur corps, mais tourmentés aussi dans leur âme, qui avaient vraiment besoin de pardon. Et ils savaient qu'en venant vers Jésus, ils pouvaient être pardonnés. Eh bien, ce qui était vrai hier, c'est vrai encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur nous aide. Et nous pouvons nous approcher de lui, parce que personne ne sera rejeté, même si nous avons une conscience très chargée, que nous sommes écrasés, mais le Seigneur nous accepte, et il nous est dit également dans l'évangile de Jean, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, c'est le moment de nous approcher du Seigneur, et de lui demander pardon. Si c'est besoin, si le besoin s'en fait sentir, de pouvoir venir devant lui, et lui dire, « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. » Et vous verrez que là, à partir de ce moment-là, eh bien, ce sera pas seulement de la reconnaissance et de la gratitude, mais ce sera un véritable amour pour Dieu. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est merveilleuse. Elle a été donnée, Seigneur, il y a si longtemps, mais pour les hommes de tous les temps. Nous voulons te demander, Seigneur, de bien vouloir nous visiter maintenant, cet instant. Tu es là au milieu de nous. Tu nous visites, tu nous bénis. Tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous donnes de prendre conscience, non, de prendre confiance, non pas en nous-mêmes, mais de prendre confiance en toi. Et puis, si je peux m'approcher de toi et te dire toute ma vie, mon passé, mon histoire, ce que j'ai fait de ma vie, ce que j'ai fait aussi de mal aux autres, eh bien, je peux t'en parler, parce que toi, tu peux tout entendre. Il n'y a rien de tabou pour toi. Tu peux tout entendre de la vie d'un homme, d'une femme. Oui, Seigneur, quel que soit, en effet, Seigneur, la montagne, Seigneur, que nous traînons derrière nous et qui, maintenant, Seigneur, devient trop lourde à supporter. Seigneur, je te confesse ma faute. Je te confesse ma vie, mes fautes. Et je te demande, Seigneur, pardon, Jésus, en sachant, Seigneur, que si je te demande pardon, tu me pardonnes. Oui, parce que notre Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, et tu nous l'as prouvé. À travers le sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, c'est le pardon que tu manifestes à travers Christ. Parce que ta parole nous dit, et c'est Jésus qui le dit à la croix du calvaire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Alors aujourd'hui, nous prenons conscience peut-être de ce que nous avons fait. Et cette conscience, Seigneur, nous amène tout simplement, eh bien, à te livrer notre cœur, notre conscience, nos pensées, notre esprit, et ainsi à recevoir ton pardon total et complet. Et je te rends grâce et je te remercie. Et de cela, Seigneur, eh bien, en effet, je serai libéré pour t'aimer et pour aimer aussi les autres. D'un amour, Seigneur, pur. D'un amour, en effet, eh bien, qui sera à la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.